le grand témoin. Avec le même plaisir pour le même devoir, grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui Dominique Monongo Inamizi. Elle est bourgmestre de la commune de Likasi. Likasi, c'est dans la province du Katanga. En plus d'être bourgmestre, elle a plusieurs casquettes. C'est une femme très engagée dans les mouvements associatifs. Elle est aussi femme politique. On va en parler tout au long de cette émission. On va parler de son parcours, de comment elle s'est retrouvée dans la politique aujourd'hui, comment elle est devenue bourgmestre, qu'est-ce qui l'a motivée à se lancer dans ce domaine. Dominique Namizi, c'est un plaisir de vous recevoir dans le grand témoin.
Le plaisir est partagé.
On va commencer par une petite biographie de votre personne. Vous êtes née à Lubumbashi.
Absolument.
Quel jour et quel mois de l'année?
Le 23 juin 61.
Vous avez passé votre enfance là-bas?
Oui, une première partie. Donc, nous sommes les anciens de Luisha, comme on dit, à l'internat de Luisha de Bonne Sœur. Et de là, nous sommes venus ici à Kinshasa en famille parce que les fonctions de mon père l'ont amené ici à Kinshasa. Et après cela, on a dû continuer jusqu'en Belgique.
Et qui, qu'est-ce que faisait votre père?
Je suis la fille du grand, le Mouami, Wendam Siri Godefroy. Mais à l'époque, il était ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et donc, pendant plusieurs mandats. Hein, donc, c'est comme ça qu'on devait venir ici à Kinshasa.
Et de là, nous... Et vous avez continué vos études à Kinshasa?
Ah oui, à l'école française, au lycée français. Et bon, et de là, quand le président Mobutu a décidé que les Congolais devaient quitter les écoles consulaires, nous sommes allés au Mouamba. Mm-hmm. C'est là qu'on a fait juste une année. Et puis, je suis
partie en Belgique. D'aller en Belgique.
Absolument, c'est là que
pour suivre vos études humanitaires.
Oui,
après vos études en Belgique, vous êtes revenu ici à Kinshasa.
C'est là que la grande surprise m'a saisie. Juste après le bac, le diplôme d'État, comme on dit, je suis rentrée pour les vacances et, surprise, j'étais enceinte. Et donc là, c'était la grande surprise. Et évidemment, mon père, vous savez, nous sommes très traditionnalistes chez nous. On avait des principes, beaucoup de principes dans la famille. On ne pouvait pas avorter, on ne peut même pas songer à ça. Et donc là, je vois le père de mon enfant, je lui dis...
vous êtes tombée enceinte parce que vous êtes venue passer les vacances ici.
Pour les vacances, en me préparant maintenant pour aller aux États-Unis aux études. Je pensais que c'était une malaria, comme on venait au Congo. Mais on me dit que je suis enceinte. Je dis, c'est pas grave, on va avorter. Je dis, chez nous, on n'avorte pas. Dans la famille royale, on ne peut pas avorter. Enfin,
il y a trop de principes.
On a beaucoup de principes, pas trop. Trop, ce serait négatif. Moi, je ne regrette pas mon éducation, je ne regrette pas ma vie. Je ne regrette pas le fait qu'on ait eu pleinement les deux cultures. Donc, je suis pleinement dans la modernité, pleinement dans l'autre tradition. C'est pas mauvais, les Japonais le font et ce sont des pays qui prospèrent. Donc je crois que nous Congolais, on devrait garder nos valeurs, les valeurs positives. Il y en a dans toutes les cultures, donc je crois que c'est pas mauvais.
Et comme ça, vous êtes resté à Kinshasa pour poursuivre vos études universitaires ici?
Oui, poursuivre, mais c'était dur. C'est une période assez difficile, vous vous en doutez. Les sanctions, papa.
Et là, c'était les parents qui avaient décidé de vous garder carrément ici?
Oui et non, ils n'avaient pas le choix parce qu'on devait absolument me garder, mais on m'a rappelé. Moi, je suis même partie en Belgique et puis papa m'a rappelé et dit, tu rentres ici parce que si ce monsieur veut que tu avortes, c'est qu'il ne t'aime pas. Alors, on oublie ce monsieur, mais l'enfant...
Parce que vous avez dit à votre père que votre petite amie vous demandait d'avorter.
J'ai dit à ma mère, à mon père, qui pouvait discuter avec le moi-même, le Bayeke. Chez nous, c'est impensable. C'est plutôt ma mère qui était au courant et ma grande sœur. Alors, ils ont dit, ok, là, tu ne peux même pas songer à l'avortement. J'ai dit, non, non, ça, je sais, notre grand-mère nous disait toujours, il ne faut jamais avorter. Donc, les mamans, on a parlé à son mari, qui était mon père. Et c'est comme ça qu'il a décidé que je vais rentrer au village.
Entre votre père et vous, c'est comme ça,
de
la tradition
stupide. I mean, on discutait des choses. Bon, à l'école, ça va. Je sais pas, moi, vous devez aller chez qui? Qui est son père. Donc, on n'allait pas n'importe où. Les gens ne venaient pas n'importe comment chez nous. Donc, il y avait ce respect. Moi, je parle de respect, mais bon, cette rigueur.
Est-ce que vous n'étiez pas emprisonné?
À un certain âge, on a l'impression qu'on est vraiment prisonnière. On aimerait bien être comme nos amis, sortir, aller où on veut. Après 18 heures, rester en boîte ou même chez des amis. Nous, après 18 heures, personne ne pouvait être dehors. Et on avait ce principe... 13 heures, tout le monde était à table. Donc, c'était une table ronde. Toute la famille se retrouvait. Donc, celui qui vient après 13h30, 14h, ne peut plus manger à temps, 19h. Et je crois que c'est important parce que les repas permettent quand même une certaine convivialité. Vous apprenez un peu à connaître vos enfants, savoir un peu ce qu'ils font dans la journée.
Parlons de cette période où vous êtes tombée enceinte. Dites que vous êtes allée en Belgique, votre père vous a rappelé.
Absolument.
Pour poursuivre vos études ici, vous êtes sociologue de formation.
Oui, pas pour poursuivre vos études, pour accoucher. Mais je suis allée, on m'a envoyé à Lubumbashi, pas à Kinshasa. Donc on m'a renvoyé à Lubumbashi. Lui-même souhaitait que j'aille à Bunké, au village.
Au village,
là, j'ai la tante paternelle, elle va au village. Ma mère a dit, non, ma fille est intelligente, ça arrive à tout le monde, au moins qu'elle reste à Lubumbashi. Et c'est là que je suis restée chez mon frère, où j'ai pris le temps, les 6 mois qui restaient, pour accoucher ma fille aînée. Et de là, c'est là que j'ai appris que la vie était un combat. Parce que
vous aviez quel âge ?
Oh, j'avais 21 ans. C'était horrible. Si je me dis aujourd'hui, si ça devait m'arriver, je ne sais pas comment j'allais réagir. Mais là, c'était un choix. Je devais accoucher et après continuer. J'allais survivre. Ça, c'était important. Et c'est ça que j'ai... À partir de là, j'ai vu ma vie transformer. C'était autre chose. Parce qu'il fallait survivre. Survivre pour cet enfant. Survivre pour montrer à ma famille, à mes parents, que tout était possible. C'était un accident. Je voulais leur montrer que j'allais rentrer aux études et que j'allais plus leur faire honte et que j'allais réussir.
Vous allez vous battre pour l'avenir de votre enfant.
Et j'ai rendre digne ce qui a été indigne. Donc, c'était pas facile. Je vous assure, j'ai passé des moments difficiles. C'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire du CDF.
Le CDF, c'est votre fondation.
Oui.
Centre de développement pour la femme,
oui.
C'est par rapport à la situation que vous avez
vécue. J'ai vécu donc la lutte contre la pauvreté, parce qu'en fait, le père de mon enfant m'a dit, je ne peux pas te garder, qu'est-ce que tu vas me donner, tu es pauvre. Comme ça, il y a des hommes sur cette terre qui ne vont vers les femmes que pour leur argent, leur richesse. Et là, c'était dur, parce que jeune, j'étais fille du ministre de l'Intérieur. Pour nous, on pensait que nous étions bien, on était en Belgique. Mais il y a plus riche. J'ai appris cette année-là que dans la vie, il y avait deux forme de pouvoir. Il y a le pouvoir financier, le pouvoir princier, coutumier, le nôtre, de père en fils, on était roi. Je savais que j'étais digne, qu'on n'était pas pauvre, mais lui, il visait l'aspect pécunier. Et donc, j'ai compris qu'il y avait deux formes de pouvoir, ceux qui restent dignes, donc nous sommes dans l'administration, on évolue pour le sacrifice, pour la nation, et d'autres qui sont là pour s'enrichir. Ça aussi, c'est deux formes de pouvoir.
Alors qu'il vous a lâché comme ça, et vous vous êtes dit, je donne une base,
je dois survivre. Et comment dire, corriger ça, et que papa puisse relever la tête et dire, ok, c'était réellement un accident qui est arrivé.
Et comment vous avez fait après votre accouchement pour les études? C'était aussi dur?
C'est dur. Non, parce que là, il a accepté que je devais travailler. Moi, maintenant, j'étais mal à l'aise. Je ne pouvais pas, parce que d'abord, ma famille était là en train de me regarder, parce que telle était licenciée en sciences sociales, l'autre commençait ses études de droit, une autre, elle était mariée à Brazzaville. Donc, moi, en fait, j'étais la paria de la famille. Je ne pouvais pas comme ça dire, maintenant, je voudrais aller aux études. Lui, il souhaitait que je continue aux États-Unis. Moi, j'ai dit, je ne peux pas laisser mon enfant parce que je voudrais l'éduquer comme vous nous avez éduqués. Donc, je ne peux pas la laisser avec les grands-parents. Les enfants qui grandissent souvent avec les grands-parents, c'est
ils
pas évident.
Ils sont trop gâtés. Ouais.
Voilà. Donc, alors là, déjà encore, là, j'ai provoqué encore sa deuxième colère. Tu ne veux pas partir? Je dis, non, papa, je reste. Mais où est-ce que tu vas étudier? Je dis, je vais rester ici à Kinshasa. Il y a des universités et tout ça. Et donc, à partir de là, il a fallu d'abord trouver un travail parce qu'il était furieux. Et donc, j'ai commencé à travailler.
Il était purgé, donc il avait coupé
c'était dur. On n'avait aucune idée, c'est l'histoire de ma vie. Quand je vous parle du CDF, c'est toujours avec beaucoup d'émotions et de larmes, parce que c'était l'école de la vie pour moi, une école de formation, une école où il a fallu non seulement rester digne par rapport à l'extérieur, où vous attendiez sur le boulevard du Transjouin pendant 3 heures, un taxi qui ne venait pas, parce que moi, je n'avais pas le droit de monter dans les véhicules de la maison. Il était très, très sévère, mon père. Et je vous dis encore, aujourd'hui, je ne regrette pas.
Pour vous punir.
Pour punir. Mes soeurs montaient dans la voiture, démarraient. Moi, je devais aller prendre mon taxi ou mon taxibus, me débrouiller. Parce que j'avais jeté l'opprobre sur la famille. Et donc, il fallait corriger ça. Et moi aussi, pour moi, c'était un défi. Jusqu'à présent, c'est toute ma vie. Et c'est toujours relevé des défis parce que j'ai connu pire. Donc, je ne vois pas ce qui pourrait m'arriver de pire que ce que j'avais connu à l'âge de 22 ans, donc, où je devais trouver un travail et survivre. Et Dieu merci, je suis tombée à chaque fois dans des entreprises où le nom, c'est quelque chose. On arrivait, on dit, vous êtes la fille de... Vous voyez comment c'était contradictoire. Donc, vous êtes la fille de le ministre. Ah, oh, il n'y a pas de problème, ok, vous parlez anglais. Oui, j'ai quelques notions d'anglais et tout ça. Mais pourquoi vous ne continuez pas? Je dis, non, je vais continuer. Alors, vous voyez un peu comment on vit dans la vie. On n'aime jamais tout montrer.
Mais Dieu merci. C'était un peu facile pour vous, vous êtes engagé.
C'était
quoi.
Facile pour moi. Et donc, j'ai commencé à travailler. Il fallait maîtriser un peu tout cela. La vie professionnelle, c'est une autre expérience, contrairement à la vie théorique. Et donc, c'était encore une très bonne expérience pendant pendant 3 ans donc j'ai travaillé en économisant.
Mais votre père, il était d'accord que là, vous puissiez aller travailler.
Il était surpris là. Il était surpris. Je rentre, je dis maman, je commence mon travail demain. Comment ça travaille? Je dis oui, je crois que j'ai trouvé. Alors c'était atténué. Hein. Je crois que ne jamais être trop sûr. Parce que jusqu'à la dernière minute, rien n'est jamais garanti dans la vie. Donc je me disais toujours demain encore quelque chose peut s'écrouler. Mais bon, c'était bien. Dès que je suis arrivée dans cette entreprise juive, parce que le patron était juif, il avait vécu au Katanga, il est né au Katanga. Donc dès qu'il a vu le nom, il dit ok, il n'y a pas de problème, je vous prends. De toute façon, j'ai besoin de quelqu'un de sûr et je sais que vous n'allez jamais voler. Je sais que donc la crédibilité, c'est très important. D'où je vous dis, je ne regrette pas mon éducation parce que il y a des choses qui sont non négociables. Vous êtes là, on sait que vous êtes crédible, la probité morale. Donc ce sont ces valeurs là qui nous ont conduit toute notre vie. Bon, et ça m'a aidé. Donc la petite, en même temps, j'allais poser à 6h du matin, je venais ouvrir le bureau et tout ça, forger mon tempérament, mon caractère. Et après 3 ans, j'ai acheté ma première petite voiture. Je parle de tout ça peut-être pour les gens qui nous suivent.
Ouais.
Les jeunes qui peuvent se dire, non, ce n'est pas possible, il y a des miracles. Effectivement, il y a des miracles, mais les miracles ne sont pas comme ça.
Il y en a qui se découragent lorsqu'elles sangrent, elles tombent enceintes, comme ça, elles se disent, c'est fini, la vie, pour moi, c'est fini, elles se découragent.
Il y a le pas, l'autre premier pas que nous devons poser, Dieu fera sa part. Mais encore faut-il accepter qu'il y a des épreuves, qu'il y a des défis à relever. Mais c'est dur, j'avoue que c'est dur, mais on peut surmonter tout cela. La preuve, je suis vraiment l'exemple vivant de ce que j'ai vécu.
Une histoire quand même assez émouvante. Hein. Oui. Alors, parlons du Centre de développement pour la femme, CDF. Vous nous avez raconté comment est née cette fondation. Vous l'avez créée en quelle année?
En 92, 93. Papa est décédé en 92. C'est à la mort de mon père, parce qu'il est mort brusquement à la Conférence nationale souveraine. Et donc, à partir de là, vous savez, il y a un moment donné, dans une vie d'épreuve, vous vous dites qu'il n'y a plus rien qui peut vous aider à sortir de là. Donc, on était dans un moment où rien n'allait plus pour nous. Et donc, on nous appelle par un avocat qui dit, non, madame, je cherche le fils aîné ou la fille de monsieur Moulongo. Et donc, ce monsieur nous dit, non, madame, vous avez quelque chose pour vous. J'ai à votre disposition un peu d'argent. Je vous assure, j'aurais tant voulu payer la vie de mon père contre cet argent, mais il était déjà parti. Il était déjà mort. Et donc, à partir de là, je me suis dit, je vais créer une fondation. Je vais créer une ONG qui s'occupera de la lutte contre la pauvreté en faveur des femmes, bien entendu, et des enfants, parce que les femmes et les enfants, c'est lié.
C'est lié, oui.
Et donc, à partir de là, le CDF est né en 93. C'est là qu'on a eu des papiers, on commence à faire les démarches. Mais vraiment, sans...
Et la fondation, elle existe toujours?
Elle existe toujours. Nous sommes...
Vous êtes très active, beaucoup plus dans le Katanga?
Non, j'ai commencé ici. Je vous ai dit, au Katanga, je suis partie qu'il y a 6 ans. Donc, j'étais plus ici à Kinshasa. Mais malheureusement, comme j'ai dû déménager, ici, les gens n'ont pas pu suivre. C'est pas évident. Parfois, la personne qui a la vision...
Ouais, c'est ça.
Les gens qui suivent ne comprennent pas tout à fait ce qu'on devrait faire. Et bon, mais je n'avais pas les moyens de tout le temps faire les déplacements Kinshasa à Lubumbashi. Donc, j'ai dû partir encore pour une autre épreuve de la vie qui a permis que je parte à Lubumbashi. Et donc là-bas, nous sommes très, très actifs. C'est le CDF est même membre du comité, le secrétariat général exécutif de la société civile au Katanga. Donc, on continue. C'était dans la lutte donc, contre la pauvreté. Aider les enfants abandonnés, aller les appuyer par-ci, par-là. Je vous assure, c'était pas évident.
Vous étiez très engagé dans la société civile.
Oui, aujourd'hui,
vous êtes en politique.
Oui, en politique, bien entendu. Mais il y avait aussi, par le CDF, nous avons aussi créé le magazine Écho de la femme. C'est un magazine qui, le premier d'ailleurs, qui parlait de la femme ici au Congo. Et donc là, j'ai dû arrêter parce
qu'il parlait de tous les problèmes qui touchent.
On voulait promouvoir la femme. Le CDF octroyait même des microcrédits. Donc, on était en train d'aider, je vous ai parlé de l'autonomie financière de la femme. Donc, il fallait absolument qu'elles aient un petit fonds pour démarrer leurs activités ou leurs projets.
Alors, Dominique Moulongo, Inamizi, princesse Yeke, princesse parce que vous êtes issue d'une famille royale. Votre nom a une signification particulière.
Ah oui. Moulongo, évidemment, c'est le nom de mon père. Dominique, c'est ma marraine qui était belge qui m'a donné ce prénom. Inamizi, ça signifie la mère des nations, la mère des peuples, la racine mère. Donc, à toute racine, il y a une racine mère. C'est ça, Inamizi. Donc, oui, ça a une grande signification chez nous.
Et c'est qui vous a donné ce nom? Votre père
mon
ou
père,
votre mère?
C'est le nom de sa tante paternelle. Mon père, c'est le nom de sa tante paternelle. Donc, la sœur de son père.
Mariée?
Oui, j'étais mariée. Mais bon, là, évidemment, on s'est séparés. C'est pas évident. Ça aussi, je vous ai parlé d'une autre expérience, une autre épreuve qui a surgi dans ma vie. Ce n'est pas facile quand on a, je ne dirais pas seulement quand on a des ambitions, même quand on commence à monter. Parce qu'à un moment donné, par rapport à mon cursus, par rapport à ce que je vous ai décrit, je ne pouvais plus tolérer la légèreté ou les amusements. J'avais une autre vie et une autre destinée qui s'était déjà tracée. Donc, que je sois mariée à quelqu'un qui ne m'aide pas à m'épanouir, à réaliser mes rêves, c'est difficile. Je constate ça même pour d'autres femmes parce qu'on nous a déjà demandé.
J'allais dire ça. Les hommes disent souvent que les femmes intellectuelles,
lorsqu'elles commencent à occuper des hautes fonctions,
elles oublient la famille, le ménage, c'est le travail, et l'homme se sent un peu diminué. Il y a ce complexe là.
Oui, il y a ce petit complexe de l'homme. Il devrait faire l'effort d'aider sa femme à s'épanouir parce que son bonheur dépendra de l'épanouissement de la femme. Quand une femme quitte le travail, rentre, ça va pas, ou bien elle est à la maison toute la journée, que l'homme revient, surtout quand il ne rapporte rien, et qu'il revient seulement, dit ok, j'ai pu trouver un peu de pain, alors que la femme aurait pu faire peut-être mieux ou plus, à un moment donné, il y a un gap, il y a quelque chose qui va dans le couple qui ne va pas. Donc, moi, je crois que c'est important que les hommes comprennent que c'est important qu'ils valorisent la femme, qu'ils leur donnent les opportunités de s'épanouir, et là, le couple n'en sera que meilleur.
Peut-être que les femmes en font un peu trop aussi.
Il y a certaines femmes, oui, effectivement, qui abusent, hein, qui sont un peu légères et tout ça, mais bon, ce n'est pas, je vous ai parlé de notre éducation, donc ce n'est pas évident. Où est-ce que tu allais être prétentieuse ou arrogante? C'est vrai, il y a cette fierté naturelle, parce que bon, je suis princesse, en moi, il y a cette dignité qui doit me conduire, l'honneur, bon, c'est sûr, mais il y a toujours quand même un minimum, parce que nous sommes tous égaux quelque part. Et puis, je vous rappelle, mon influence des droits humains, de la société civile, donc quelque part, vous minimisez certaines choses qui vous collent à la peau, vous vous dites, au fait, après tout, nous ne sommes que des humains, des mortels, et qu'il n'y a que Dieu qui détient la dernière clé. Après tout, on évolue, chacun de nous, à sa destinée.
Et par rapport aux fonctions que vous occupez aujourd'hui, on va en parler, vous êtes, je l'ai dit, vous êtes bourgmestre de la commune de Licassi. Être femme célibataire, bourgmestre, est-ce qu'il n'y a pas des préjugés?
Des préjugés, non, moi je ne crois pas. En tout cas, chez moi, on m'apprécie, parce que même je suis mère, hein, j'ai mes deux enfants. Et puis, je vous assure, quand il y a un problème dans un couple, ou bien une affaire dans un quartier, c'est plutôt venir vers moi. Maman, on sait que vous allez nous comprendre. Donc, je crois que ça dépend de la personne. C'est à vous de dégager cette crédibilité, c'est à vous de savoir où poser vos pieds. Donc, depuis que je suis à Licassi ou même à Lumbashi, je ne suis jamais sortie. Donc, on ne m'a jamais vue ni dans une boîte de nuit, ni dans un bar, ni... Donc, je suis très, très, très disciplinée. Donc, c'est à nous, femmes, de bien gérer notre vie pour que les gens vous prennent au sérieux. Il y a tout cet aspect-là. Kelly, n'oubliez pas, il y a tout ce poids-là. C'est la princesse, c'est la bourgmestre, c'est. Écoutez, on ne blague pas. Donc,
mais il y a toujours des courageux, en fait.
Oui, il y a des audacieux, mais en tout cas, ils ne sont pas encore là. Ils n'ont pas encore cette audace.
Voilà, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie, Dominique Mounongo et la musique?
Je n'aime pas l'hypocrisie, je n'aime pas le mensonge, je n'aime pas les gens arrogants, prétentieux pour peu de choses, parce que la vie, elle est pleine de surprises. Donc, vous êtes arrogant aujourd'hui, mais demain, vous serez trop bas. Alors, si vous aviez été simple, même quand ça ne va pas, les gens se souviendront toujours de vous en disant, ok, il y a des périodes difficiles qu'on passe. Donc, je n'aime pas le mensonge et l'hypocrisie, la médisance, je n'aime pas, j'ai horreur de ça. Bon. Et malheureusement, ce que je vis à Licassi, la rumeur. Vous entendez les choses sur base de rumeurs. Et vous dites, qui a dit? Non, on a appris que tel a dit, je m'en fais. Et vous allez émeuter le quartier tout entier, la commune, pour une rumeur. Donc, je suis souvent en train de sensibiliser mes administrés en disant, vérifiez toujours les faits avant de commencer à venir accuser les gens à la commune. Parce que nous, on alerte la police, on alerte l'armée. Alors qu'il y a très peu de choses, plus de peur que de mal. Donc, voilà.
Quel est votre plat préféré? Qu'est-ce que vous aimez manger?
J'aime le riz, le poulet grillé. Vous savez que chez nous, on a tellement d'interdits. Donc, je ne mange pas le porc, je ne mange pas le poisson. Donc, je n'ai pas un grand choix dans la nourriture. Donc, j'aime le poulet, la viande de bœuf.
Vous attachez trop à la coutume.
Hein? Les deux. Je suis chrétienne, née de nouveau. Mais je vous assure qu'on est, née avec ses valeurs. Okay? Quelque part, quand vous êtes formaté en disant, ok, chez nous, on ne mange pas le poisson, on ne mange pas le porc. Quand quelqu'un mange le poisson, le porc, c'est comme si quelqu'un mangeait le serpent. Vous voyez, c'est dans nos coutumes. Je crois que c'est pas mauvais. Je vous ai dit au début que ce n'est pas mauvais.
J'aime le sport.
Ah oui, j'aime beaucoup la marche. Maintenant, je n'ai plus le temps de faire du sport. Où est-ce que je peux faire avec mes fonctions? Ce n'est pas évident.
Le week-end, samedi, dimanche,
nous n'avons pas de dimanche. Sport à Licassi. Vous savez que Licassi, certes, c'est la deuxième ville du Katanga, mais c'est quand même une petite ville où il n'y a pas beaucoup d'activités comme Kinshasa ou Lubumbashi. Il n'y a pas de fitness center comme partout ici. Donc, je n'ai que la marche que je fais. Évidemment, je vois l'équipe de basketteurs, ce sont les jeunes que nous essayons de promouvoir. Il y a les karatékas que nous appuyons de temps à autre, mais je ne peux pas faire du karaté, je ne peux pas. Donc, moi, je marche.
Vous pouvez faire la marche.
Oui, je fais beaucoup de marche. J'aime beaucoup et je lis beaucoup. C'est ma passion, c'est la lecture et j'aime beaucoup la lecture. Je vous écoute souvent à la radio.
Et la musique?
Oui, la musique aussi douce. Oui, oui, oui. J'aime beaucoup parce que quand même, j'ai beaucoup vécu aux États-Unis. Moi, je suis plutôt du style musique américaine. Je suis un peu branchée R&B à cause de mes enfants. Alors, j'essaie toujours de montrer. Et chez nous, il y a une expression qui dit, bon, quand t'écoutes-moi. Vieillir, c'est le désirer, c'est le vouloir. Donc, moi, je refuse. Quand
vous refusez de vieillir.
Voilà. Donc, alors, mes enfants, alors, quand je leur parle d'R. Kelly, je parle Lil Wayne. Alors, maman, tu connais? Même enfin, je suis branchée.
Ça vous êtes plus une maman branchée.
Mais j'ai plus, j'écoute plus beaucoup Frank Sinatra. Plus sa musique, quand même, calme, qui me calme un peu les nerfs. Parce que la Licassie, on est souvent stressé, hein. Mais j'aime beaucoup la musique.
Alors, on va souffler un peu avec une des chansons de Frank Sinatra.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes knows her. When she walks, she's like the samba that swings so cool and sways so gentle, that when she passes, each one she passes knows. But I watch her so sadly. Can I tell who I love? Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks dead ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É a menina que vem e que passa, um beijo balança o caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol do Ipanema, o seu balançado parece um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar.
But I watch her so sadly.
Porque tu é tão triste.
Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks in the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking. When she passes, I smile, but she doesn't see. Por causa do amor, she just doesn't see. She never sees me. Because of the
de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Juste pour rappeler à tous les auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en ce moment, que Grand Témoin reçoit Dominique Munongo Inamizi, elle est bourgmestre de la commune de Likasi, ancienne activiste de la société civile, fondatrice du Centre de Développement pour la Femme, CDF. Aujourd'hui, elle est dans la politique. Dominique Munongo Inamizi, comment vous vous retrouvez dans la politique? Racontez-nous la petite histoire.
Oh mon Dieu, c'est encore le CDF, toujours ce bébé, hein, je l'appelle le CDF, c'est le CDF, donc le centre qui m'a permis de m'épanouir d'une autre façon, d'une façon à laquelle je n'imaginais pas. Moi, j'étais appelée à une autre destinée, selon ma famille, selon mon père, mais la souffrance et l'épreuve que j'ai vécue dans mon parcours a permis que j'entre dans une autre expérience des ONG. Donc, grâce à ce DEF, j'ai eu à beaucoup parcourir le monde, en tout cas tous les pays, pratiquement dans les conférences et séminaires.
Grâce à votre fondation, à cette ONG.
Oui, ONG, parce que nous étions au sein de la société civile, donc c'est assez crédible, hein, je vous assure. Je laisse toujours ma touche, hein, partout où je passe. Hein, je suis quelqu'un de très exigeante avec moi-même d'abord. Donc, avant de l'être avec les autres, je le suis avec moi-même. Je suis très, très pointilleuse là-dessus. Et donc, suite à mes petites expériences, on part quelque part, je viens, je fais la restitution. Et c'est comme ça qu'on m'a suivi à la télévision. On m'appelle par, je peux le citer, hein, le responsable de l'UNADEF, donc le fils de Papa Mwando Simba. Donc, dit à Dominique, tu reviens de Kampala. Oui, on était dans un séminaire de femmes, leaders, parce que nous sommes dans plusieurs réseaux de femmes pour la paix, hein, la stabilité. On leur dit, mais pourquoi tu n'entres pas en politique? Moi, je te suis. Ah, tu as les discours des politiciens. Je veux, oui, la société civile, quelque part, nous sommes des garde-fous. Donc, on est contre-pouvoir. Mm-hmm. Quelque part, on doit vous suivre pour contrer ce que vous êtes en train de faire quand vous dérapez. Elle dit, non, viens en politique. Je crois que tu vas tourner en rond avec ta société civile en train de revendiquer. On va encore t'arrêter. Puisque je vous,
vous avez été arrêté?
Oui, une fois, deux fois, parce que nous, on a encore parfois des propos musclés. C'est tout à fait normal. Hein, quand on est activiste et quand on défend une cause que l'on estime être juste, moi je crois que c'est tout à fait normal que les gens en face de nous se sentent menacés et qu'ils vous arrêtent. Mais on était toujours libérés, un jour ou deux après, on était toujours libérés. Donc ça aussi, on est tranquille. Ça aussi, c'est une école parce que vous êtes éprouvé à tant de niveaux qu'à un moment donné, vous n'avez plus peur de rien, quelque part. Et donc il me dit, viens, entre en politique, nous avons besoin de femmes comme toi dans notre parti. Tu dis, ah non, moi la politique, je n'aime pas.
C'est pas votre affaire. Je préfère rester dans la société civile.
C'est l'affaire de... Elle dit, ok, d'accord, mais je te laisse réfléchir sincèrement, on a besoin de toi. Et c'est comme ça, je continue mes actions de droits humains, aller faire libérer tel ou tel autre, les spoliations des maisons, non, dénoncer, non, mais vraiment très, très engagé, tel que vous me voyez. Et puis, alors, il y a eu la visite de M. Mille.
Et là, vous mettez votre vie en danger quand même.
Oui, mais qui ne risque rien à rien dans un moment donné.
Et votre famille
à un moment donné, il savait que j'étais perdue, hein, irrécupérable dans la lutte contre la corruption. Donc, je suis très, très engagée. Quand je crois en quelque chose, vous ne pouvez pas me faire changer d'avis. Je suis une femme de conviction et je me dis, quand on n'a pas de conviction, c'est qu'on n'est pas destiné à quelque chose de grand. C'est très important d'avoir des convictions et de persévérer dans ce que l'on croit être juste et bon. Évidemment, il faut être flexible parce qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis, dit-on. Mais c'est comme ça, en fait, que j'ai pris le temps. J'en ai parlé encore à un autre ami qui me disait, Dominique, pourquoi tu n'entres pas en politique après 15-16 ans? Je crois que c'est bon. Avec ton discours, je crois que tu devrais un peu t'engager en politique et ton expérience. Effectivement, alors lors d'une visite de M. Miss avec toute une équipe, ils sont venus au Katanga pour voir un peu la société civile. Et donc j'étais la première à prendre la parole pour parler un peu de la situation des droits humains chez nous. Et il a reconnu la voix. Votre voix me dit quelque chose. Sam City, oui, et tout ça. Dans le processus, toutes les formations que nous avions suivies. Mais malheureusement, juste quand on commençait là-bas, moi j'étais appelée aux États-Unis pour une formation qui prenait plus de temps. Et donc j'ai préféré aller là-bas et on était dans les coulisses. Nous étions dans le groupe des experts. Et donc, il me dit, mais pourquoi vous n'entrez pas en politique maintenant? Je crois que maintenant, il est temps pour vous d'entrer en politique. Et c'est comme ça que j'ai encore réfléchi 2 mois. Et j'ai téléphoné à M. Mwando. Je dis, ok, là, j'accepte d'entrer. Alors, vous pouvez me donner le projet de société? Que je comprenne un peu à quoi je m'engage. Parce que quand je m'engage à quelque chose, c'est aussi toujours avec détermination. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis penchée.
Mais aujourd'hui, vous êtes satisfaite d'avoir choisi de faire la politique?
On peut être satisfait de quelque chose, je crois. On ne peut pas. Toute œuvre, je dirais, est inachevée. Donc, il y a toujours, je suis toujours un peu la grande révoltée, même en politique, je dis toujours ce que je pense. Très satisfaite, c'est vrai, parce que je peux changer les choses là où je suis, sincèrement.
Mais je veux dire, est-ce que vous vous sentez plus à l'aise en politique que quand vous étiez dans la société civile?
Ah oui, je suis autant. Je suis vraiment à l'aise, comme si, pour moi, c'est comme si j'étais dans la société civile, dans ce sens qu'on avait toujours ce discours qui était assez percutant, parce que même au parti politique, souvent, on me dit, toi, tu es trop rebelle. En politique, il faut savoir, c'est le mot d'ordre qu'on reçoit. Bon, je suis un peu rebelle, naturellement, donc ils savent me gérer comme je suis. On fait avec, hein. Donc, à un moment donné, il faut savoir montrer ses convictions et montrer ses marques. C'est important dans la vie, je crois.
Vous faites partie des LUNADEF. Vous êtes responsable même des LUNADEF.
Oui, c'est moi la responsable. Mm-hmm. Donc, régulièrement, donc les jours d'audience à la commune, c'est le mardi, jeudi. Et les autres jours, lundi, mercredi, je suis au parti. Je reçois les gens du parti ou ceux qui ont une préoccupation quelconque pour planifier les formations. Et donc, ça, c'est une autre expérience pour moi qui m'édifie et qui me fait grandir aussi. On doit changer les choses.
Alors, l'UNADEF, c'est un parti politique de la majorité présidentielle, mais comment répondez-vous à toutes
ces personnes qui critiquent un peu la manière de gérer de la majorité présidentielle aujourd'hui.
Oui, je crois qu'en politique, il y aura toujours des critiques. Hein. Je vous ai dit que la rumeur, les critiques, les ont dit, bon, c'est le lot quotidien de la vie, là où il y a les hommes et les femmes. On critique toujours, parce que nous vivions ça, même à la société civile. Je crois que, effectivement, rien n'est parfait.
Mais vous-même, en tant que membre de la majorité présidentielle, qu'est-ce que vous pensez de la gestion du pays?
Rien n'est parfait sur cette terre. Et bien entendu, on devrait changer certaines têtes. Moi-même, je l'observe à partir de l'ICASI, nous sommes pratiquement abandonnés. J'ai l'impression, moi, en tant que responsable d'une petite entité, qui est la commune de l'ICASI, que tout se décide à Kinshasa et tout se limite à Kinshasa. Donc, quand, par exemple, il y a une insécurité où on a tué quelqu'un dans un des quartiers, je demande à la police d'aller intervenir. Nous n'avons pas de véhicule. Et pourtant, quand je suis à la télévision à Kinshasa, les véhicules ont été donnés, octroyés à la police, avec grand pompe, tambour et trompette. On voit comment on remet les véhicules et les tenues. Mais chez nous, là-bas, il faut voir, certains policiers ont des tenues en haillons. Sincèrement. Donc là, j'interpelle un peu nos autorités qui gèrent un peu tout cela. Mais bon, j'observe, en venant de l'intérieur, vivant à l'intérieur, qu'il y a déjà des efforts qui sont fournis. Je suis surprise, en venant ici à Kinshasa, de voir les immeubles. Quelque part, entre nous, on n'a rien à envier à l'Afrique du Sud, à certaines artères ou certaines villes, quartiers de l'Afrique du Sud ou de l'Europe. Il y a des changements, mais il faudrait maintenant que tout aille de pair avec la mentalité des gens et que nous puissions, chaque population sache jeter le papier, la saleté dans la poubelle. Il y a tout cela maintenant, il faut mettre l'accent sur ça et qu'on puisse mettre les moyens disponibles pour les responsables des entités. Tout qu'ils fassent le suivi, bon, ça vient progressivement parce que nous, on vient d'avoir il y a 3 mois des véhicules. On vient à peine de penser à nous au niveau du Katanga. Le gouvernement nous a remis les jeeps pour les bourgmestres. Bon, c'est déjà ça, ça commence. Mais bon, il a fallu...
Il y a encore beaucoup de choses à faire.
Beaucoup de choses à faire. Donc, c'est là que vous dites, si on critique la majorité, c'est normal, les gens critiqueront toujours. Et c'est normal aussi qu'on fasse une autocritique, une auto-évaluation de notre action en tant que majorité. Savoir un peu ce qu'on fait est bon, ce n'est pas bon. Et peut-être demander aux gens de la majorité de l'intérieur. Peut-être nous aurions peut-être un regard plus objectif que ceux qui sont à Kinshasa, qui se remplissent les poches. Nous, peut-être, de l'intérieur, on peut leur dire, ok, en tout cas, ce niveau, je crois qu'il faut corriger ceci ou cela. Mais malheureusement, on ne nous consulte pas souvent. C'est ça qui est triste.
Alors, parlons de votre commune, la commune de l'ICASI. C'est dans la ville de l'ICASI.
Absolument.
Donc, la commune qui porte le même nom que la ville de l'ICASI, oui, dans la province du Katanga.
Le centre-ville, en fait.
Voilà. Vous êtes bourgmestre. Oui. Ça fait 2 ans et demi que vous êtes à la tête de la commune de l'ICASI. Comment ça se passe pour vous, là-bas?
Ce n'est pas évident dans ce sens.
On l'a accepté pas.
Ah oui, de ce côté-là, il n'y avait pas de problème. C'est plutôt moi maintenant qui ai dû vivre ce gap qui était Kinshasa. Arrivé à Lubumbashi en se disant, ok, je vais rentrer encore, certainement j'aurai une fonction à Kinshasa ou ailleurs. Je ne pensais pas qu'on me trouverait un poste à l'ICASI. Je trouvais que, mon Dieu, comment est-ce que je vais m'en sortir, sachant qu'il y a quand même des mentalités qui sont assez, je ne dirais pas rétrogrades à l'intérieur, mais il faut du temps pour parler aux gens. Les gens sont très susceptibles à l'intérieur, que ce soit ici ou à Bandaka ou ailleurs, parce que j'ai fait le tour du Congo, je connais un peu. Donc, pour parler à quelqu'un qui est à l'intérieur, il faut vraiment prendre des pincettes, savoir que tu ne vas pas la vexer, que tu veux l'aider à changer les choses, son environnement immédiat, et il y aura des retombées sur sa vie, sur ses enfants. Donc, c'est ça. C'était dur, parce que c'est chez nous, c'est chez ma mère, hein, l'ICASI. Donc, je me disais, mon Dieu, est-ce que je vais me faire comprendre? Est-ce qu'ils vont changer? Parce que moi, avec ce que je ramenais comme background, je me disais, je ne peux pas tolérer la médiocrité, je ne peux pas tolérer les bêtises, comment faire avec les flatteurs qui viennent toujours quand on a une petite fonction, il y a toujours les flatteurs aussi qui affluent. C'était dur, je vous assure, mais on m'a accepté facilement parce que j'étais quand même la fille de la maison. Ok, on savait, les références étaient là. Et c'est moi plutôt qui ai eu un choc pendant 2 mois. C'était dur. Je me disais, ok, quelle stratégie
pour l'intégration.
L'intégration, ça faisait longtemps que j'étais partie, même si on est à Kinshasa, mais c'est déjà partir du terroir, je veux dire. Et donc, quand je suis rentrée, j'ai mis 2 mois, le temps de causer avec le chef de quartier, mobiliser les médias, descendre sur terrain, recueillir les besoins et les attentes des populations, mes administrés, noter tout ça, commencer déjà des petites actions pour leur montrer que ce que j'ai promis, je vais le réaliser. Ah, ça, c'était le plus dur. Et donc, évidemment, vous en doutez bien qu'il n'y a pas un budget conséquent. Ça aussi, c'est un autre problème par rapport à Kinshasa. Vous devrez penser
à comment mettre le peu de moyens
que
vous avez.
Le peu de moyens qu'il y a. Donc, percevoir les taxes, c'est déjà la croix et la bannière parce que les gens ne comprennent pas. Oui, mais on va payer nous-mêmes. même les recettes sont
ouais.
dures, dures, dures. Quelle est les réalités de l'intérieur sont tout autres, sincèrement. Mais mon Dieu, merci, ayant ces deux expériences de la capitale de Lubumbashi, la capitale du Katanga, si je puis dire, et maintenant Likasi, j'ai pu gérer tout cela, appeler les relations tant Kinshasa, pour être ministre à Lubumbashi. Et cela, petit à petit, on a commencé à aménager, nos infrastructures sont là, on a pu faire des routes à Likasi. Ça devient petit à petit, ça renaît. Il y a une brigade de salubrité.
C'est une belle petite ville, Likasi.
C'était une très belle ville.
C'était, oui.
Ah oui, c'était. Mais petit à petit, ça reprend. Le gouverneur est très dynamique. Il vient souvent. Donc, on a réparé les avenues et nous sommes en train, nous, de planter, d'arranger les ronds-points. J'y vais moi-même planter. Et donc, les caméras, on voit bien que Mme Bougoumestre est à l'œuvre pour leur montrer que il ne faut pas rester parce qu'on a un poste, on reste dans son fauteuil climatisé, dans un bureau climatisé. Je veux dire, mais il faut être sur terrain.
Vous êtes sur terrain.
Régulièrement sur terrain. Ça, c'est connu à Likasi.
Alors, une petite question. Pourquoi vous, à la tête de la commune de Likasi, qu'est-ce qui a motivé votre nomination à la tête de cette commune?
Sincèrement, je ne puis vous répondre à cela parce que ça, c'est leur histoire de partage. Hein. Je crois au niveau de l'AMP, je crois que ça, c'était destiné à l'UNADEF.
C'est votre parti qui a
proposé mon nom. Sincèrement,
mais vous n'avez même pas cherché à savoir pourquoi moi, alors qu'il y a beaucoup.
On voulait un homme comme moi. Je pèse mes mots, j'ai bien dit, on voulait un homme comme moi. Chez nous, il y a un terme, même Louba qui dit Kilobo. Kilobo, moi, même cache. Donc, on voulait une femme qui est la trompe d'un homme à Likasi, à la commune de Likasi. Il y avait vraiment un laisser-aller, je vous assure.
Il y avait un grand problème.
J'ai l'impression qu'il y avait eu un problème auparavant parce que c'est le parti. J'ai vu que vraiment c'était une décision, on m'a pratiquement imposée. Je ne voulais pas. Moi, je me disais, mais enfin, vous imaginez, vous avez vu un peu tous les pays du monde que j'ai eu à parcourir, vous m'envoyez à Likasi. Alors que normalement, naturellement, ça devrait être une promotion, soit au niveau du gouvernement national ou PDG ou ADG, pourquoi pas, je le mérite quand même. Mais on m'a dit non, j'ai besoin de toi à Likasi, c'est ce poste qui nous revient et je n'ai pas d'homme. Vraiment, c'était les phrases, mais papa Mando, ça m'a touché. Je dis, est-ce que j'ai le choix? Elle dit, non, malheureusement, tu es en politique, maintenant tu n'es pas la société civile. Ça aussi, c'était une autre expérience pour moi. Parce que là, on m'a imposé, c'est la contrainte de la politique. Alors, avec
un ordre.
Alors, elle dit, c'est un ordre, c'est comme alors, bébé, tu es-tu? Je dis, oui, un peu. Je lui ai dit, oui, je suis un peu rebelle. Elle dit, non, là, tu vas à Likasi, je vais entendre parler de toi. Et là, je verrai peut-être plus tard.
Pas mais aujourd'hui, bien. Comment vous vous sentez à la tête de cette commune?
Oh, j'aime Likasi. Vraiment, je vois que c'était nécessaire que j'y aille, dans ce sens que j'ai appris beaucoup des réalités de l'ICASI et de l'administration publique. Moi, j'avais plus d'expérience internationale, hein, des ONG, parce que j'étais consultante dans beaucoup de structures internationales. Ça me manquait. Ça manquait à mon CV, la territoriale, la gestion de l'administration publique. Je vous assure, c'est une très bonne expérience pour moi.
Parlons de la Fondation Munungu Inamizi. C'est une autre ONG que vous avez créée?
Oui, oui. Si, là, c'est encore un dernier petit bébé. Pourquoi je l'ai créé? C'était par rapport à l'expérience de l'ICASI. J'ai vu qu'à Likasi, il y a un phénomène bizarre, les femmes qui abandonnent leurs enfants. Donc, on arrive le matin à la commune, on trouve des enfants abandonnés.
Et on vous dépose des enfants
devant la commune. Mais ils sont habitués, maman est amusée, quoi. Donc, c'est la bobonne, hein, la bonne à tout faire, c'est une amusée. Ils connaissent la signification du nom. Donc, ils se disent que celle-là, elle est généreuse, donc elle va trouver une solution. Voilà, c'est comme ça qu'on prend là-bas. Et donc, quand on voit des enfants, j'appelle le chargé du social de la commune. Et donc, il faut mettre cet enfant quelque part. Il n'y a pas d'orphelinat de qualité. Donc, il y a quand même les bonnes sœurs, les religieuses qui s'en occupent. Alors, il faut aller les déposer là-bas ou bien d'autres encore. Il y a deux orphelinats. Et donc, je dois négocier avec eux, évidemment, pour voir.
Et c'est la commune qui les prend en charge.
C'est dur. La commune, parfois, non, parce que la commune n'a pas toujours les moyens, mais c'est plutôt Dominique, souvent. Je vous assure, je sors de ma poche, hein, pour aider les gens ou les personnes qui arrivent avec des cas assez graves, comme ça. La commune va sortir l'argent d'où. Parce que je vous dis que la perception n'est pas évidente. Chez nous, il y a une telle pauvreté que même les commerçants ne cotisent pas. Donc, on n'a pas encore cette culture fiscale.
Alors, par rapport aux enfants que vous récupérez,
il n'y a pas non seulement les enfants, je voulais aussi vous dire, il y a aussi les artistes. Donc, la FMI, la Fondation Munungu Inamizi, vient d'organiser, on clôture le 25, le festival Munungu Inamizi.
Lors de ce festival, ça concerne pas seulement les enfants
abandonnés, non, même les enfants qui ont des talents. Les musiciens en herbe qui viennent souvent à la commune parce qu'il y en a en quantité industrielle. Le festival Munungu Inamizi a organisé cette année, le premier, donc l'édition 2013.
Vous êtes vraiment très
très dynamique, hein, madame Dominique Moulongo, par rapport aux femmes qui nous suivent en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces femmes-là qui n'arrivent pas à exploiter les atouts qu'elles ont en elles?
Je prie Dieu qu'elles puissent comprendre que c'est non seulement la femme qui met au monde, c'est la femme qui transmet les valeurs et qui éduque. Donc, si tu éduques, c'est pour qu'il y ait la relève. Mais pour qu'il y ait relève, toi-même, tu dois être un modèle pour cette relève-là qui pourra dire, oh, j'ai vu ma mère faire ça. Et donc, à toutes ces femmes-là, je leur demanderai d'être des modèles pour leurs enfants. Donc, il ne faut pas minimiser les atouts, les dons que nous avons. Beaucoup de femmes, quand elles viennent à la commune, elles me disent, je dis, oh maman, toi, Euro 5 à Capital. Je dis, pourquoi faire? Est-ce que vous avez un don pour le commerce? Je dis, moi, je n'ai pas ce don. Je leur parle de moi. Parce que, alors, elles me regardent. Je commence à jouer. Chacun de nous a son don. Moi, je suis là pour diriger. Je vois que c'est ça mon don, d'être là à l'écoute des gens. Mais si c'est pas le commerce qui est ton don, tu risques encore de tomber en faillite et de tomber en faillite. Donc, à toutes ces femmes, je leur conseille sincèrement de mieux faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. D'étudier. Parce que c'est toujours possible. Il n'y a pas d'âge pour les études. Et ces femmes-là qui se disent, oh, j'ai eu que mon diplôme d'état. Qu'est-ce que je peux faire? La vie maintenant, j'ai 8 enfants. Qu'elles continuent, qu'elles fassent informatique, qu'elles fassent l'anglais, qu'elles lisent. Et puis, elles auront d'autres opportunités parce que la vie nous réserve souvent des surprises.
Mon nom est Dominique Inanizi. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de la commune de Likasi. Vos ambitions dans les jours à venir?
Évidemment, on a toujours des ambitions dans la vie. Ça peut être sur le plan politique ou dans d'autres
domaines. Sur le plan politique.
Ce que je vous assure, je me dis que l'idéal aurait été que j'ai même 3 vies à mener parce que je déborde d'énergie, comme vous le sentez, vous le voyez. Donc, si je pouvais faire 50 choses à la fois, ça aurait été l'idéal, malheureusement.
Comme là, même trop, pour ne pas embrasser trop de choses à la fois.
Oui, parce que c'est même pas bien pour ma santé. Ça serait pas bien. Donc, évidemment, s'il y a des élections qui se profilent à l'horizon dans ce processus que nous sommes en train de vivre avec la CENI, j'espère que j'aurai l'opportunité de me présenter, mais là, je n'ai pas encore décidé si ce sera à Likasi ou ailleurs. Mais c'est
la réputation
provinciale. Je crois que c'est important qu'il y ait des femmes qui soient des modèles et qui sachent communiquer tant avec la population qu'avec sans Kinshasa que Lubumbashi. Donc, il y a ça. Je vois que ça manque beaucoup. Des relais qui aient vraiment des gens, parce qu'on a élu des gens. Très peu vraiment communiquent. Très peu nous font le feedback de ce pourquoi on les a élus. Ça, je suis très triste.
Et très peu prennent la parole pour parler au nom de leur population, de leur base.
Je suis très triste. Je suis très déçue. Donc, parfois, il faut des gens qui osent. Il y a ça aussi. C'est l'audace qui manque peut-être à la femme. Peut-être qu'elles sont venues pour des calculs en disant on vient pour l'argent. Donc, il faut des gens quand même qui dépassent.
Ou encore déviés par leur parti politique.
Qui ont déjà dépassé tout cela. On n'a ni problème d'argent, ni problème de complexe. Et alors, on se dit, on va vraiment pour la population. Là, c'est important d'être au service des gens.
Madame Dominique Moulongo, c'était un plaisir de vous avoir dans cette émission. J'ai passé des très bons moments avec vous.
Le plaisir était vraiment partagé.
Femme très dynamique, vivante.
Enfin, je vous ai vu et on a pu causer. Ça me fait vraiment plaisir.
Alors, un dernier mot pour mettre fin à cette émission.
Oh, le dernier mot, c'est que les hommes et les femmes fassent tout, Congolais évidemment, fassent tout pour que cela aille pour notre pays. J'ai l'impression qu'on prend trop les choses à la légère. Je suis souvent vos débats dans Dialogue entre Congolais ou dans d'autres émissions. Je me dis qu'il faudrait qu'on se réveille. Ce pays, personne ne viendra le construire à notre place. Donc, il faudrait que chacune de nous, que chacun de nous fasse sa part. Chacun de nous a une part de responsabilité, tant dans l'échec que connaîtra le Congo, que la réussite du Congo. Donc, c'est très bien de jeter des pierres sur un groupe de gens, mais toujours s'interroger si moi j'étais à la place. Qu'est-ce que j'aurais fait? Parce qu'on a toujours devant soi un plan de travail, un plan d'activité. Et donc, il y a des priorités qu'on voit à l'intérieur. Ce pays est immense. Donc, on ne devrait pas minimiser certains coins, sélectionner ce qui est vraiment primordial. Je crois qu'il y a la sécurité, il y a la justice et il y a aussi la gestion. Donc, au quotidien, la restauration de l'autorité de l'État au niveau de l'administration. Et donc, c'est chacun de nous, à son niveau, qui devrait changer les choses. Et j'ose croire que nos autorités vont comprendre et qu'ils vont commencer à davantage faciliter et donner les moyens aux populations des entités. Quand je parle de moyens, ce n'est pas nécessairement financier. Donc, on voudrait tellement que petit à petit, que là où nous avons une parcelle de pouvoir, que nous puissions améliorer les choses et que l'on puisse dire le Congo commence à changer.
Alors, pour toutes les personnes qui ont envie d'entrer en contact avec vous, comment faire pour vous atteindre?
Bon, je crois que nous avons la facilité ici à Radio Okapi, donc ils pourront toujours déposer s'il y a du courrier ici à votre adresse. Mais sinon, par mon numéro de téléphone 099 99-29-087, je reprends.
Oui, pour 99-29-087,
ça c'est mon numéro direct, j'en ai pas deux et on ne change pas.
J'espère que vous n'allez pas vous lâcher des appels.
Non, parce que je suis au service vraiment des gens.
Merci beaucoup,
moi qui vous remercie.
Yeke.
Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.
Et bon dimanche.
Merci à vous aussi.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Dominique Munongo Inamizi, bourgmestre de la commune de Likasi, dans la ville qui porte le même nom, c'est-à-dire Likasi. Vous l'avez compris, nous sommes dans la province du Katanga. Merci à Mimi Kindou qui a assuré la mise en onde au micro Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bon dimanche chez vous et bon suite de programme sur la fréquence de la paix.